L'aîné est en ondes le samedi matin entre 9 et 10 heures et en rediffusion le lundi à 17 heures et le jeudi à 13 heures.
Vendredi 26 mai, il est 16 heures précises. Bonjour Victoria, bon retour à la maison si vous rentrez du travail. Bienvenue dans l'émission à tous les auditeurs. C'est parti pour cette nouvelle édition du Débrief. Alexis Gagnon au micro, je suis avec vous au cours de la prochaine heure pour effectuer la revue des actualités mondiales, nationales et provinciales. Merci de syntoniser le CILS FM 107,9. On démarre dans un instant avec la revue de presse internationale du vendredi 26 mai. Et je vous signale tout de suite, chers auditeurs, qu'à la mi-temps de l'émission, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec Teal Phelps-Bondaroff, un collaborateur régulier ici au Débrief, à propos de politique britanno-colombienne. Comme vous le savez, on continue encore de parler du feuilleton de l'élection britanno-colombienne, dont le résultat définitif est encore en suspens. Donc, Teal sera avec nous pour nous aider à comprendre cette situation qui prévaut ici à l'issue de l'élection du 9 mai. Vous écoutez l'émission Le Débrief, mon nom est Alexis Gagnon, voici votre revue de presse internationale pour le vendredi 26 mai. Moyen-Orient tout d'abord, en Égypte, une attaque contre des coptes fait au moins 28 morts. Des hommes armés ont pris d'assaut vendredi un bus transportant des chrétiens dans la province de Minya, au sud de la capitale du Caire. Les chrétiens ont encore été visés vendredi 26 mai en Égypte. Au moins 28 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées par des hommes armés et masqués alors qu'ils se rendaient en bus dans un monastère copte, a annoncé le porte-parole du ministère de la Santé, Khaled Megaed, à la télévision d'État, ajoutant qu'il y avait 25 blessés. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat, mais elle a lieu alors que la branche égyptienne de l'organisation djihadiste État islamique mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte. L'État islamique s'était engagé à multiplier les attaques contre cette communauté chrétienne, la plus importante et l'une des plus anciennes du Moyen-Orient, qui représente environ 10% des quelque 90 millions d'Égyptiens. État islamique encore et à propos cette fois de l'attentat commis à Manchester en début de semaine. Le réseau derrière l'attentat de Manchester a quasiment été démantelé. C'est ce que nous indique la manchette de l'agence France-Presse. Une bonne partie du réseau djihadiste derrière l'attentat de Manchester aurait été démantelé grâce à des progrès immenses dans l'enquête, a annoncé vendredi le responsable de l'antiterrorisme britannique 4 jours après l'attaque qui a fait 22 morts. Un article portant sur le G7 dans le fil de l'agence France Presse aperçu pour vous. Trudeau parlera de commerce et de climat au sommet du G7. C'est par la journaliste Joanna Smith. Le Canada entend insister sur le libre-échange et sur l'action contre les changements climatiques au sommet des dirigeants du G7 à Taormine en Italie. Et ce, même si le président des États-Unis, Donald Trump, souhaite que le monde prenne une toute autre direction. Il existe clairement des domaines où la position canadienne ne sera pas adoptée universellement, a lancé aujourd'hui journaliste vendredi matin, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Un représentant du gouvernement au courant des négociations affirme que l'accord de Paris sur le climat, duquel Donald Trump souhaite se retirer, et le commerce international demeurent des enjeux majeurs qui risquent d'étirer les négociations jusque tard dans la nuit. Le représentant a aussi noté qu'il pourrait y avoir des divergences d'opinion entre les leaders au sujet des politiques migratoires, particulièrement lorsqu'elles sont liées à l'enjeu de la sécurité internationale. Le sommet du G7 cette année accueille 4 nouveaux leaders, indique cet article de l'AFP, dont Donald Trump. Les autres sont le président français Emmanuel Macron, la première ministre britannique Theresa May et l'hôte de l'événement, le premier ministre italien Paolo Gentiloni. Mais plutôt qu'un affrontement entre les vétérans et les nouveaux venus, le sommet de 2 jours risque plutôt d'être une bataille entre Donald Trump et tous les autres, du moins lorsqu'il sera question de commerce et de changement climatique, alors que tout le monde tentera d'en arriver à un consensus. Et toujours à propos de ce sommet du G7 en Italie, dans les colonnes de Ouest-France, les voix anti-G7 tentent de se faire entendre à Taormine, en Sicile. Sur les plages ou sur les places des villages aux abords de Taormina, les organisations anti-G7 s'emploient tant bien que mal à faire entendre leur voix dans le fracas médiatique généré par les grands de ce monde. Avant la grande manifestation qui doit les réunir samedi 27 mai dans un unique cortège non-G7, collectifs et associations opéraient en ordre dispersé ce vendredi 26 mai, alors que les dirigeants des 7 pays les plus riches entamaient leur première journée de travaux. Sur la plage à proximité de Taormina, c'est l'ONG pour la défense de l'environnement Greenpeace qui s'est manifestée la première dans la matinée via une reproduction de la statue de la liberté, haute de 4 mètres, plantée dans le sable. La statue portait un gilet de sauvetage symbolisant le réchauffement climatique et la hausse du niveau de la mer qui en est la conséquence. On essaie d'envoyer un message simple aux leaders en leur disant qu'il n'est pas possible qu'ils ne respectent pas les engagements pris il y a 2 ans à la conférence sur le climat de Paris, a expliqué à l'agence France-Presse Luca Lacoboni, représentant de Greenpeace Italie. Et si l'Amérique ne respecte pas ses engagements, nous demandons aux autres grands pays d'aller de l'avant parce que la réponse du monde au slogan de Donald Trump « America First » doit être « La planète d'abord », a-t-il ajouté. Et cet article rappelle que, sitôt arrivé à la Maison-Blanche en janvier dernier, Donald Trump a repoussé sa décision sur le maintien des États-Unis dans l'accord de Paris contre le réchauffement climatique et qu'il a repoussé cette décision, oui, à une date ultérieure au sommet du G7. Et toujours sur cette plage à proximité de Taormina, les militants d'Oxfam portaient des masques à l'effigie des dirigeants présents au G7 et se sont mis en scène, faisant mine de faire de l'autostop, ou du pouce si vous préférez, avec le panneau « Paris Agreement », accord de Paris. Plusieurs manifestants étaient également présents en bordure du sommet du G7 pour contester les politiques migratoires, demander qu'un accueil digne soit réservé aux migrants qui arrivent en Italie. Et nous demeurons dans le fil de l'agence France-Presse à propos d'un proche collaborateur de Donald Trump, le gendre de Donald Trump visé par l'enquête sur l'affaire russe. Jared Kushner, le gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump, fait partie des personnes visées par l'enquête du FBI sur les ingérences russes dans l'élection présidentielle, ont affirmé jeudi plusieurs médias américains. Les enquêteurs du FBI pensent que Kushner a des informations importantes concernant leur enquête, a rapporté la chaîne NBC, qui a précisé que cela ne signifie pas que le mari d'Ivanka Trump est suspecté d'avoir commis un délit. C'est une série de réunions auxquelles aurait participé Jared Kushner, ainsi que la nature de ses contacts avec la Russie, qui intéresse les enquêteurs, précise le Washington Post. Donc vous trouverez cette nouvelle dans le fil de l'agence France-Presse. Et tandis qu'on parle de la Russie, cet article aperçu pour vous dans le portail Bastamag, en Russie, les lois se multiplient pour traquer les ONG et les militants écologistes. Alors que Emmanuel Macron reçoit le 29 mai à Versailles le président russe Vladimir Poutine, les pressions exercées à l'encontre de la société civile en Russie ne cessent de s'accroître. Un nouveau rapport des Amis de la Terre Norvège revient sur les conséquences des différentes lois adoptées par le Parlement russe sur les ONG, autrement dit les organisations non gouvernementales, et précisément les ONG environnementales, à vocation environnementale. Depuis novembre 2012, toute ONG qui dispose de fonds étrangers et prend part à des activités considérées comme politiques est susceptible de tomber sous le coup de la loi sur les agents de l'étranger en Russie. Or, le terme d'activité politique est extrêmement large puisqu'il englobe toute action visant à influencer les décisions prises par les pouvoirs publics. Dans un premier temps, la plupart des ONG avaient décidé de ne pas s'inscrire s'inscrire sur le registre des agents de l'étranger. Mais en 2014, la loi a été modifiée pour permettre au ministère de la Justice de procéder lui-même à des enregistrements automatiques. Au 1er mars 2017, 158 ONG en Russie étaient inscrites sur ce registre, dont 28 organisations de défense de l'environnement selon les Amis de la Terre, Norvège. Une fois déclaré agent de l'étranger, une ONG est soumise à toutes sortes de contrôles, fourniture d'informations sur ses dépenses chaque trimestre, rédaction d'un rapport détaillé deux fois par an sur ses activités et sur ses dirigeants, audit financier annuel. L'appellation agent de l'étranger doit par ailleurs figurer sur toutes ses publications. De multiples contraintes qui étouffent les organisations de la société civile, conclut Bastamag dans cet article. Fin 2015, l'Association des avocats pour la société civile a estimé que les employés d'une organisation qualifiée d'agent étranger dépensent en moyenne 284 heures de travail par an pour ces rapports supplémentaires qui sont exigés par l'État russe, soit quasiment un mois et demi de travail supplémentaire. Vous trouverez cet article écrit par la journaliste Sophie Chappelle dans le portail bastamag.net. Une information qui concerne la santé publique. Les États-Unis autorisent la commercialisation du Keytruda. L'Agence américaine du médicament vient d'autoriser la mise sur le marché du Keytruda, un nouveau médicament anticancéreux. Ce médicament a la particularité de cibler les tumeurs en fonction de leur profil génétique et non plus en fonction de l'organe qui est atteint. Le Keytruda est une immunothérapie, précise cet article qui paraît dans West France. Il a été approuvé selon une procédure accélérée. Le traitement peut être utilisé chez l'enfant comme chez l'adulte et permet de traiter des tumeurs inopérables. Les tumeurs ciblées affectent fréquemment le côlon, les tissus endométriaux, les ovaires et encore les tissus gastro-intestinaux. On se déplace en Extrême-Orient maintenant, dans les colonnes de Mediapart. Vers plus de sanctions contre la Corée du Nord, annonce la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump et le premier ministre japonais Shinzo Abe se sont dit d'accord vendredi pour étendre les sanctions contre la Corée du Nord en raison de la poursuite de son programme d'armement nucléaire et de missiles balistiques. La Corée du Nord a procédé à des dizaines de tirs de missiles et a effectué deux essais nucléaires depuis le début de l'année 2016, allant à l'encontre des résolutions des Nations Unies. Le président Trump et le premier ministre Abe sont convenus que leurs équipes coopéreraient pour renforcer les sanctions contre la Corée du Nord, notamment en identifiant et en sanctionnant les entités qui soutiennent les programmes de missiles balistiques et nucléaires de la Corée du Nord, a déclaré la Maison-Blanche à l'issue d'une rencontre en tête-à-tête entre les deux dirigeants en marge du sommet du G7 à Taormine, en Sicile. On revient au Moyen-Orient pour la lecture de cet article portant sur la Tunisie. C'est dans le portail Mediapart sous la plume de Lilia Blaise. Une loi d'amnistie parasite la lutte contre la corruption en Tunisie. La société civile a entamé un bras de fer avec la présidence de la République, porteuse d'un projet de loi de réconciliation qui veut pardonner la plupart des corrompus. Quatre hommes ont toutefois été arrêtés en début de semaine. Selon un rapport de l'International Crisis Group en Tunisie, beaucoup de Tunisiens considèrent que la corruption, entendue comme l'abus d'une position publique à des fins privées, gangrène la classe politique et l'administration. Pour Michael Ayari, auteur du rapport, si auparavant la corruption était clairement identifiée dans la figure du clan Ben Ali, elle est désormais diffuse et dispersée entre une élite économique rentière et les nouveaux venus, les barons de l'économie informelle provenant surtout des régions déshéritées. S'ajoute à cela l'affaiblissement de l'État qui, malgré la volonté du Premier ministre de lutter contre la corruption, est perçu désormais comme un État mafieux. Pour l'auteur de ce rapport, les compromis politiques entre le parti islamiste Ennahda et le parti Nida Tounes à l'issue des élections législatives et présidentielles de 2014 ont encouragé l'affairisme et le corporatisme au sein des clans politiques. Le consensus mis en place pour stabiliser le climat politique finit par montrer ses limites, comme en atteste ce rapport. Et dans le même journal Mediapart, à l'adresse mediapart.fr, on trouve un entretien fascinant avec un économiste du nom de Kaushik Basu. Pour sauver la mondialisation, il faut passer du partage de la pauvreté à celui du partage des profits. Ce sont des propos recueillis par le journaliste Romaric Godin. Quel regard portez-vous en tant qu'ancien chef économiste de la Banque mondiale sur la situation actuelle de l'économie mondiale, demande Mediapart. La situation actuelle est particulièrement déprimante, répond l'économiste. La concurrence entre les nations conduit à une compétition dangereuse. Les pays les plus égalitaires sont obligés de creuser les inégalités pour survivre dans le contexte actuel de la mondialisation. Cela a été le cas du Japon, qui était un pays avec un faible niveau d'inégalité, mais les entreprises y ont beaucoup souffert, précisément par parce qu'il était impossible de sauvegarder cette structure sociale dans le contexte de la mondialisation. Les inégalités se creusent aussi en Chine et en Inde depuis 20 ans, dit-il. On ne porte pas assez d'attention à cela, à mon avis. Mais je pense, par exemple, que les conflits au Moyen-Orient proviennent aussi de la détérioration de la situation de l'emploi dans ces régions. Ce qui est inquiétant, c'est que l'on prend peu de mesures curatives face à cette situation. Certes, la Commission européenne, par exemple, semble prendre conscience de la nécessité d'une politique budgétaire plus coopérative, mais ce n'est pas encore suffisant. Dans certains pays comme les Philippines ou la Turquie, la solution prend la forme de régimes autoritaires. Je suis néanmoins optimiste parce que je crois que la nécessité va pousser à la mise en place de mesures de redistribution et de coopération. Face aux défis du changement climatique et de systèmes sociaux impossibles à tenir, il faudra trouver des solutions, y compris celles qui paraissent aujourd'hui utopiques. Alors voilà un entretien fascinant accordé par l'économiste Kaushik Basu, qui était auparavant à la Banque mondiale. C'est intitulé « Pour sauver la mondialisation, il faut passer du partage de la pauvreté à celui des profits ». Et les propos ont été recueillis par le journaliste Romaric Godin. Et c'est sur cet entretien accordé à Mediapart que se referme cette revue de presse internationale du 26 mai. Restez avec nous à l'antenne de votre radio communautaire francophone locale. L'émission Le Débrief se poursuit dans quelques instants avec la revue de presse nationale. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief, édition du 26 mai. Nous allons passer maintenant aux nouvelles canadiennes. Voici votre revue de presse nationale. On va commencer avec une chronique qui paraît dans l'hebdomadaire L'Actualité sous la plume de Chantal Hébert, une vétéran de la chronique politique tant au Canada anglais qu'au Canada français. C'est intitulé « L'éléphant de Justin Trudeau, comment concilier la lutte contre les changements climatiques et les ambitions énergétiques du Canada », demande-t-elle. Depuis le scrutin du 9 mai en Colombie-Britannique, il y a un éléphant dans le salon du gouvernement de Justin Trudeau, écrit Chantal Hébert. Il s'agit du projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain de l'entreprise Kinder Morgan. L'automne dernier, Justin Trudeau avait donné sa bénédiction au projet. Juste avant la campagne électorale provinciale, la première ministre libérale Christy Clark y a consenti du bout des lèvres. Sauf que le grand gagnant du scrutin n'a été ni le Parti libéral de Christy Clark, ni l'opposition officielle néo-démocrate, mais le Parti vert de Andrew Weaver. Ce dernier a doublé son score dans le vote populaire. Il est passé de 8 à 16% et a fait élire 3 députés dans une assemblée législative autrement scindée en 2 blocs presque égaux entre néo-démocrates et libéraux. Ce caucus minuscule est désormais garant de la stabilité du prochain gouvernement de la province et se trouve donc en bonne posture pour imposer certaines de ses priorités environnementales. Le leader du Parti vert de la Colombie-Britannique, Andrew Weaver, est un climatologue de renom international. Il a fait carrière à l'Université de Victoria jusqu'à son entrée en politique en 2012. L'environnementaliste David Suzuki a fait campagne pour ce parti. Andrew Weaver ne s'est pas lancé en politique pour participer à des aventures comme celle du réseau d'oléoduc de Trans Mountain. Tout indique qu'une majorité importante de ses concitoyens ne sont pas non plus partants pour accueillir davantage de pipelines sur le territoire de la province. Le 9 mai, 60% des électeurs de Colombie-Britannique ont voté pour des partis qui veulent freiner le projet de Kinder Morgan, le projet Trans Mountain. Les gains du NPD aux dépens des libéraux ont été enregistrés dans le Grand Vancouver, principal champ de bataille du débat des pipelines. La campagne a eu d'autres thèmes que celui des oléoducs, note Chantal Hébert dans cette chronique. Néanmoins, c'est la deuxième fois en 2 élections que des partis pro-pipeline perdent des plumes dans cette province. Et l'autre parti, évidemment, c'est les conservateurs de Stephen Harper en 2015. Au scrutin fédéral de 2015, en effet, les conservateurs de Harper avaient enregistré leur pire score en 3 décennies en Colombie-Britannique, passant de 45 % du vote à 30 % seulement. Pour le gouvernement Trudeau, le résultat partagé de cette élection du 9 mai en Colombie-Britannique est une complication qui pourrait entraîner des perturbations majeures sur le front des relations fédérales-provinciales, estime Chantal Hébert. tout l'échafaudage du consensus que tente de dégager le premier ministre Trudeau pour réconcilier la lutte contre les changements climatiques et les ambitions énergétiques du Canada repose sur la théorie du donnant-donnant. Ottawa donne le feu vert à des projets comme celui du Trans Mountain, mais impose du même souffle un prix plancher pan-canadien sur les émissions de carbone. La Constitution canadienne, rappelle Chantal Hébert dans cette chronique, donne à Ottawa le droit de déclarer qu'un ouvrage, comme un pipeline ou un barrage électrique, bien qu'entièrement situé dans une province, est à l'avantage général du Canada pour lever de force tous les obstacles politiques ou juridiques sur son passage. Le pouvoir déclaratoire n'a pas été utilisé depuis 1961, alors qu'il avait servi 470 fois dans le siècle précédent, au 19e siècle. Ce n'est pas une coïncidence, estime Chantal Hébert. Depuis une quarantaine d'années, le prix à payer pour utiliser ce pouvoir déclaratoire a fortement augmenté sur le plan politique. Le Parti libéral de Justin Trudeau détient 17 sièges en Colombie-Britannique, presque tous élus sur le champ de bataille vancouverois des oléoducs, rappelle Chantal Hébert. Il en compte une quarantaine au Québec. C'est un pensez-y bien. Et Chantal Hébert développe aussi son propos autour du pipeline Énergie Est, qui est très contesté également dans l'Est du Canada, au Québec et dans les Maritimes. Donc, c'est une chronique à lire, une réflexion intéressante de la part de Chantal Hébert dans le magazine L'Actualité, que vous trouverez sur l'actualité.com, l'éléphant de Justin Trudeau. Et pour rester dans le même sujet, le Canada de Justin Trudeau ne sera pas vert. C'est un article signé par Bertrand Shepper dans le Journal de Montréal. Soyons francs, les expressions développement durable, transition écologique et économie faible en carbone sont généralement édulcorées et vides de sens dans la bouche des élites politiques canadiennes. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter l'argumentation de Justin Trudeau qui espère financer la transition écologique grâce à des pipelines qui transportent du pétrole sale. C'est tout simplement risible, estime le chroniqueur Bertrand Shepper dans cet article. Pourtant, ces élites, grâce à diverses manœuvres allant de la bourse au carbone à la subvention pour voitures électriques, semblent convaincues que leurs objectifs environnementaux seront atteints. Dans les faits, rien n'est moins sûr. C'est ce que démontre la plus récente étude du Centre canadien des politiques alternatives, le CCPA, Tracking Progress, Evaluating Government Plans and Actions to Reduce Greenhouse Gas Emissions in Canada. Et vous pouvez consulter ce rapport. Le lien est fourni par le chroniqueur Bertrand Shepper dans cet article. Et il propose, dans son texte, d'analyser trois graphiques qui montrent que les efforts du gouvernement sont nuls et n'auront pas pour effet de réduire, comme le prétend le gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre. Alors, vous trouverez cet article sous le titre « Le Canada de Justin Trudeau ne sera pas vert ». C'est plutôt une tribune ou un texte d'opinion, donc, sous la plume de Bertrand Shepper dans le Journal de Montréal. Dans le fil de la presse canadienne, on nous apprend que le développement du F-35 se poursuit. Ottawa a versé de nouveau 30 millions de dollars au Pentagone. Le gouvernement canadien a discrètement versé une nouvelle contribution annuelle de 30 millions de dollars pour le développement du chasseur furtif américain F-35 afin de demeurer dans le coup. C'est par le journaliste Libertium. Le ministère de la Défense nationale du Canada indique que le paiement versé au Pentagone à la fin du mois d'avril porte à 373 millions US l'investissement total du Canada depuis 1997 dans le programme d'avions de chasse du département américain de la Défense et de Lockheed Martin. Ce versement annuel permet au Canada de demeurer pendant encore un an membre du club des 9 partenaires dans ce projet avec l'Australie, le Danemark, l'Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Turquie et les États-Unis. Ces partenaires peuvent soumettre des offres pour les contrats de milliards de dollars liés à la fabrication et à l'entretien des avions de chasse, mais aussi bénéficier de rabais s'ils décident d'en acheter. Alors, le programme des F-35 avait été fortement critiqué, surtout durant le règne de Stephen Harper. Et on apprend dans le fil de la presse canadienne que le Canada continue de financer ce programme. Et le F-35, c'est un avion qui n'est même pas encore livré. Il y a eu plusieurs reports et retards dans le développement de ce modèle. C'est un avion qui avait de la difficulté à voler la nuit et qui avait de la difficulté à voler sous la pluie. Il a rencontré d'énormes problèmes d'ingénierie et cet article nous donne les dernières nouvelles sur ce sujet. C'est dans le fil de la presse canadienne. Et on va rester dans le fil de la presse canadienne un peu plus bas, un article sur Nigel Wright. Nigel Wright a enfreint les règles d'éthique dans l'affaire Mike Duffy. C'est le titre de l'article. Nigel Wright n'a jamais été embêté par la justice dans le scandale Mike Duffy, mais l'ancien chef de cabinet de Stephen Harper est sévèrement critiqué par la commissaire au conflit d'intérêts et à l'éthique. Dans un rapport très attendu, la commissaire Mary Dawson a conclu jeudi que Nigel Wright avait violé non seulement la loi fédérale sur les conflits d'intérêts, mais aussi la loi sur le Parlement lorsqu'il a voulu aider Mike Duffy à rembourser les frais de logement qu'il avait réclamés au Sénat, ce qui impliquait que le sénateur admette ses torts. Et le journaliste Joël Denis Bellavance, dans les pages du journal La Presse, nous indique que Stephen Harper n'assistera pas à la désignation de son successeur en fin de semaine. L'ancien premier ministre Stephen Harper brillera par son absence au congrès du Parti conservateur cette fin de semaine à Toronto, congrès au cours duquel les membres du parti lui désigneront un successeur. Carl Vallée, ancien proche collaborateur de Stephen Harper, a indiqué que l'ex-premier ministre souhaitait ainsi laisser toute la place au prochain leader du parti qu'il a dirigé pendant 11 ans et qu'il a mené à 3 victoires électorales de suite en 2006, 2008 et 2011. Et si vous vous intéressez à la politique québécoise, on a un bilan de la bisbille qui sévit entre deux formations souverainistes au Québec, le Parti québécois et la formation de gauche Québec solidaire. Le titre de cet article signé par Tommy Chouinard, QS, est dirigé par un politburo. C'est l'accusation que formule Jean-François Lisée, chef du Parti québécois. C'est maintenant le conflit ouvert entre le Parti québécois et Québec solidaire, écrit le journaliste Tommy Chouinard. Ce dernier est dirigé par un politburo, un groupe obscur de radicaux qui est nuisible au changement social et politique et au mouvement indépendantiste, a accusé Jean-François Lisée cette semaine. Donc voilà, de fortes dissensions, de grandes divergences au sein du mouvement souverainiste dans la province du Québec. C'est dans le journal La Presse, sous la plume de Tommy Chouinard. Ici se conclut la revue de presse nationale pour le 26 mai. Le débrief vous reviendra dans quelques instants avec votre nouvelle francophone du jour. À tout de suite. Les revues de presse internationales et nationales sont derrière nous. Nous allons maintenant passer à la rubrique francophonie pour le 26 mai. 6 spectacles en simultané pour le 150e anniversaire du Canada. C'est dans le portail de Radio-Canada. 6 spectacles célébrant la francophonie se dérouleront en simultané dans 6 villes canadiennes le 24 juin prochain à l'occasion du 150e anniversaire de la Confédération. L'événement intitulé Constellation francophone ouvrons les portes se tiendra à Québec, Moncton, Ottawa, Toronto, Whitehorse et Winnipeg. Plus de 400 artistes francophones et francophiles se produiront en même temps sur ces 6 scènes. L'événement inclura des artistes de la relève, des artistes connus, des artistes autochtones, a précisé la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. Afin de rapprocher les communautés, il y aura également un volet interactif. Des portes interactives seront installées près de chaque scène pour que les spectateurs puissent se rencontrer et nouer des liens entre eux, a ajouté la ministre. Au total, 12 portes interactives seront installées les 23 et 24 juin dans 12 villes à travers le Canada. On veut que les gens, par exemple des classes ou des groupes de jeunes, se donnent rendez-vous grâce à ces portes, a expliqué Denis Degagné, président du Centre de la francophonie des Amériques, qui est derrière cet événement. Le gouvernement du Canada investira 2,4 millions de dollars pour la tenue de ces différents spectacles, indique cet article de Radio-Canada. Ces célébrations disposent d'un budget total de plus de 4 millions de dollars, a souligné l'un des organisateurs. Et on souligne dans cet article que l'événement, qui se déroulera simultanément dans 6 villes, sera diffusé sur les ondes de TFO, la chaîne ontarienne francophone, et ainsi que sur les ondes de la chaîne Uni. Alors voilà, je rappelle l'article 6 spectacles en simultané pour le 150e anniversaire du Canada. C'était votre information à thématique francophone dans cette édition du 26 mai du débrief, votre rendez-vous info quotidien. Merci de demeurer à l'écoute de votre radio communautaire francophone locale. Écoutez, c'est ILS FM 107,9. Merci d'être à l'écoute de l'émission Le Débrief. En fin de journée, votre rendez-vous info quotidien. On retrouve Teal Phelps-Bondaroff avec nous. Bonjour, Teal.
Ah, bonjour. Comment ça va?
Alors, Teal, tu es avec nous régulièrement ces temps-ci pour parler de politique britanno-colombienne. Et il y a de quoi, parce que l'issue du scrutin du 9 mai est encore en suspens. C'est il y a encore bien des choses qui restent à déterminer. Le feuilleton se poursuit et on va essayer d'éclaircir un peu la situation en ta compagnie. Je rappelle à nos auditeurs que tu es docteur en politique internationale, diplômé de Cambridge. Tu as été consultant pour un candidat local ici dans la grande région de Victoria, un candidat qui se présentait sous la bannière néo-démocrate dans Oak Bay Gordon Head. Et alors, j'ai quelques questions pour toi. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. On sait qu'il y a eu un recomptage à Courtney Comox ici sur l'île de Vancouver. Est-ce que tu es surpris du résultat? On a appris finalement que effectivement la circonscription allait au NPD. Est-ce que ça t'a étonné?
Ben, je pense que je suis plutôt soulagé des résultats. C'était un grand temps pour attendre les résultats. Souvent, nous reçoit les résultats la nuit de l'élection, mais cette fois-ci, c'était un long repos. Et ouais, c'est bon. Je pense que Ronald Ray Leonard est un bon candidat. Il va être un bon candidat représentant.
Oui.
Et oui, c'était
pourquoi?
Très proche. Ben, premièrement, je pense que elle partage les valeurs de l'NPD. Et aussi parce qu'elle a gagné par 6 petits votes, par 189 votes, elle va travailler très fort pour les gens. Les personnes qui gagnent par les grandes majorités, des fois, ils ne visitent pas leur conscription souvent. Oui. Ils font plutôt les différentes choses hors de la conscription. Mais cette fois-ci, Ronald Reagan a besoin de travailler très fort pour gagner la prochaine élection par plus de votes que ça. Alors,
mais la prochaine,
les personnes là-bas vont avoir quelqu'un qui travaille très fort.
Et la prochaine pourrait venir très rapidement.
Oui, c'est ça. Qu'on est ça dépend des résultats de la négociation. Alors, ça vient peut-être dans un an, peut-être deux ans, on ne sait jamais.
Oui, ça pourrait être rapide, en effet. Bon, et si on parlait un peu de Andrew Weaver, qui a beaucoup de pouvoir dans la configuration actuelle, il a le rôle d'arbitre, de kingmaker quelque part. Est-ce qu'on connaît ses intentions?
Ben, il a déjà dit à trois pièces de politique qu'il veut avant de pour former une coalition ou pour coopérer avec les autres pays. La première, c'était d'être reconnu. Que les personnes voient comme un parti officiel. Maintenant, la loi dit qu'on a besoin d'avoir 4 sièges pour être reconnu comme un parti officiel. Il a 3, alors c'est pas assez. Et il y a beaucoup d'argent et d'opportunités de demander des questions, des choses comme ça, les habilités qui viennent avec la reconnaissance comme un parti officiel.
Ah oui, alors, comme ça, quoi?
Par exemple, on a l'abus de demander. On a l'opportunité de demander la question dans la période de questions officielle.
Oui.
Les chefs d'un parti officiel peuvent demander une question. Autrement, il a besoin de vraiment essayer d'avoir le temps. C'est plus une négociation pour lui. Il y a beaucoup d'argent pour les positions dans leur office. Alors, plus de fonds.
Pour des recherchistes, des collaborateurs.
C'est ça.
OK, d'accord.
Autre chose comme ça.
Donc,
alors,
statut officiel pour le Parti vert. Andrew Weaver en fait une condition sine qua non pour justement, avec ses interlocuteurs du Parti néo-démocrate et du Parti libéral. OK, ça, c'est la première condition. Autrement, qu'est-ce qui est important pour Andrew Weaver?
Ben, les deux autres choses, c'était un qui est en accord avec les policies de l'NPD, qui est de régler les dons de l'élection. Et l'NPD et les Verts veulent arrêter les dons de
le financement politique?
Oui, c'est ça. Il va arrêter les dons de corporate et aussi des syndicats. Alors, ça, c'est une autre chose. Et ça va vraiment changer l'argent dans la politique, qui va vraiment changer le discours. Mm-hmm. Et la troisième chose, qui est encore en accord avec la NPD, mais seulement il y a un peu de désaccord avec la méthode de changement, c'est la réforme électorale.
Oui.
Alors, la NPD et les Verts veulent réformer le système. Il y a un peu de tension là-bas, seulement parce que M. Weaver veut adopter un système proportionnel maintenant, et la NPD veut un référendum. Mais alors ça, je pense, c'est vraiment le point de discussion, le point de contention maintenant. S'il y a des conversations avec M. Weaver, M. Horgan, ça, c'est le point où ils vont discuter la plus, selon moi.
D'accord. OK. Intéressant. Donc, trois conditions posées par Andrew Weaver du Parti vert. Statut officiel pour les Verts, scrutin proportionnel et réforme du financement politique. On a dans le Times Colonist aujourd'hui un éditorial qui est d'accord avec la position du NPD. Je ne sais pas si le Times Colonist est souvent d'accord avec le NPD, ça c'est une autre question. Mais on indique dans cet éditorial du Times Colonist aujourd'hui que toute réforme du scrutin ici en Colombie-Britannique devrait préalablement faire l'objet d'un référendum. Et donc tu es d'accord essentiellement. Tu penses que la population doit être consultée.
Ouais, dans ce moment, spécialement dans une situation dont nous n'avons pas un gouvernement majoritaire, parce que 60% des personnes disent on veut le changement, mais ce n'est pas un majoritaire écrasant pour un parti qui veut un type de changement spécifiquement.
Ouais.
Alors, nous avons deux différentes visions de changement. À la fin, c'est la même chose, la situation, un système électoral proportionnel, mais la méthode d'arriver à la fin, c'est un peu différent. Et selon moi, le temps où nous avons un gouvernement minoritaire, une coalition, ou qui fonctionne avec un accord de coopération, ça, c'est pas le temps de faire des grands changements dans le système électoral. C'est un bon temps pour adopter les lois qui règlent l'argent dans le système politique. C'est un bon temps de peut-être parler des soins des enfants, le logement, des choses comme ça. Mais pour vraiment discuter des grands changements de le système électoral, on a besoin d'une grande majorité ou un référendum. Alors, selon moi, ça, c'est le méthode la plus démocratique. C'est différent du système fédéral, parce que dans le système fédéral, nous avons eu un gouvernement qui a voulu proposer de changer le système électoral et a gagné une grande majorité. Alors, j'attends un changement électoral fédéral, mais
on l'attend toujours de la part de Justin Trudeau.
Et je pense que nous allons attendre un peu plus longtemps.
Une promesse brisée.
Ouais, c'est ça.
Il y a des gens qui critiquent le NPD provincial ici en Colombie-Britannique à propos de la réforme du scrutin en disant que le NPD n'est pas vraiment intéressé à réformer le scrutin, le processus électoral, puisque le NPD désire secrètement ou plus ou moins ouvertement gouverner majoritaire, tout simplement. Et que c'est ça la préférence du NPD, finalement.
Ben, c'est beaucoup plus facile d'avoir un gouvernement majoritaire, mais à la fin de la journée, on peut regarder à les valeurs de l'NPD fédéral. Nous avons Nathan Collins qui travaille très fort pour atteindre la réforme électorale. Moi, j'ai travaillé déjà sur une campagne électorale à l'Angleterre. J'étais là pour mes études scolaires. Oui.
T'étais du côté du Labour?
Non, parce que c'était un référendum. C'était juste oui ou non.
Ah, d'accord.
Et moi, j'ai travaillé sur le côté oui. C'est plus facile comme un citoyen du Canada. Pas encore contente avec les trois grands partis ou quatre grands partis d'Angleterre. J'ai pas vraiment choisi un parti comme
ça. As-tu la citoyenneté britannique?
Non, mais les citoyens du Canada peuvent voter dans les élections dans la Grande-Bretagne.
Parce que
nous sommes des citoyens du Commonwealth.
D'accord.
Alors, c'était un peu bizarre parce qu'il y avait des citoyens du...
Mais il faut habiter en Grande-Bretagne.
Ouais, c'est ça.
Ok,
ouais.
D'accord.
Et après, si j'habite là-bas, je peux voter dans tous les niveaux de la
Fun fact.
Ouais, c'était beaucoup de fun. Alors, moi, j'ai quitté pour aller travailler pour mon recherche. Et ma partenaire, elle travaillait comme organisateur régional de la référendum électoral là-bas. Et c'était un peu plus compliqué là-bas parce que c'était 50% plus 1, c'était normal. Mm-hmm. Mais la question, c'était pas sur le système proportionnel. C'était un système où on peut donner ranger des candidats
en ordre de préférence.
Ouais, c'est ça, okay. Un système préférentiel. Et c'était un peu fou, mais on travaillait très fort pour le changement et nous avons gagné notre conscription, mais le côté de oui pour le changement a vraiment perdu là-bas en Angleterre. Alors, quand vous demandez si la personne dans l'NPD veut le changement électoral, moi j'ai déjà travaillé sur une campagne pour ça. Nous pouvons regarder à les politiciens fédéraux qui battent très fort pour la réforme électorale. Et à le niveau provincial, la chose dont on a besoin de penser, c'est peut-être si quelqu'un a une majorité maintenant, mais dans le futur, pour le long terme, c'est meilleur d'avoir le changement électoral. On a déjà parlé de ça il y a des semaines prochaines, la semaine passée.
Oui.
C'est que ça change la structure du discours politique d'une façon moins confrontationnelle. Et je pense que c'est meilleur comme ça. Alors, il y a peut-être des gens qui ont toujours le rêve d'avoir un gouvernement majoritaire, mais je pense qu'il y a plus d'idées, plus de bonnes idées dans le système proportionnel. Et des fois, on peut gagner un gouvernement majoritaire avec un système proportionnel.
Oui, c'est possible.
Et de cette façon, c'est encore
tout dépend de la campagne électorale et de la préférence des électeurs.
Ouais, c'est ça.
On a remarqué tous les deux un article qui est paru sur le portail indépendant Check News intitulé « Green Party holds the balance of power in British Columbia », tout simplement. Et il y a un spécialiste de UVic qui est interviewé dans cette... Il y a un spécialiste de UVic, oui, il s'agit d'un prof qui s'appelle Jeremy Weber. Et il indique en substance dans un passage de cet article paraissant sur Check News que Christy Clark, dans la configuration actuelle, va peut-être demeurer première ministre pendant de nombreux mois, en fait, parce qu'il donne les étapes qui sont devant nous, les étapes parlementaires, les jalons parlementaires qui doivent être passés. Tu me disais tout à l'heure que l'Assemblée législative va se retrouver en octobre.
Ouais, je pense que oui.
C'est très loin, non?
Ouais.
Donc, est-ce que Christy Clark va être première ministre durant tout l'été?
Ben, beaucoup de ça dépend de sa opinion. Elle peut aller parler avec Mme Guichon, le gouverneur-lieutenant de la province, en avant de ça, et dit, je pense pas que j'ai la confiance à la Chambre, peut-être vous devrez demander les autres chefs. Elle peut faire ça. En écoutant les messages de...
Pour demander de nouvelles élections?
Non, elle peut faire ça aussi.
Ouais.
Mais je pense que c'est important d'avoir un vote dans le législateur avant d'avoir un vote.
Ouais, ouais.
Mais ou d'avoir un vote provincial. Mais elle peut aussi aller parler avec Mme Guichon et dire, je pense pas que j'ai la confiance, peut-être vous devrez demander les autres chefs. Est-ce qu'elle va faire ça? Ben, en écoutant sa discours pendant les derniers jours, je pense pas qu'elle va la faire. Alors, ouais, on va avoir...
La confiance, ça, c'est nécessaire techniquement pour gouverner. Hein.
Ouais.
Il faut avoir la confiance de la Chambre après avoir présenté le discours du trône.
Ouais. Mais donc... la confiance est là jusqu'à ce que c'est testé. Alors...
Et le test, c'est le discours du trône.
Oui, c'est ça.
Le grand test. Et c'est seulement en octobre.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de test cet été. Elle peut s'asseoir et puis dire, je suis première ministre. Rien ni personne ne va l'empêcher.
Mais à la fin, ça sera un grand gaspillage de temps si elle prend beaucoup de travail sur un budget qui va faillir.
Ouais.
Alors, je ne pense pas que la personne va... vraiment aimé ça si elle essaie de gouverner comme elle a une majorité, mais en réalité, elle n'a pas. Alors, ça, c'est une situation un peu
bizarre. Est-ce qu'il y a encore des ministres à l'heure actuelle? Parce qu'il y a des ministres libéraux qui ont perdu leur siège, qui ont perdu leur élection. Donc, à quoi ressemble le cabinet ministériel de Christy Clark aujourd'hui, 26 mai?
Je pense pas qu'il y en a un maintenant. Elle est première ministre, mais elle n'a pas un gouvernement.
Non,
il n'y
a pas de ministre.
Comme ça. Ouais.
Donc, si... une crise survient dans la province et qu'un ministre, comme c'est le cas normalement, doit prendre la parole pour répondre aux questions de la population et des médias. Par exemple, on a 300 morts dus aux opioïdes au mois de juin. Personne ne le souhaite, évidemment, mais il faut des ministres. Il faut. Il y a personne au ministère de la Santé, là. Il y a juste des fonctionnaires.
Moi, je ne sais pas la réponse à cette question. Peut-être. Oui, on va voir. Je pense qu'il reste quelques semaines de négociations. Peut-être on va avoir une coalition qui arrive en avant de ça avec les ministres dans le cabinet, mais je sais pas.
Enfin, tout repose dans les mains de Weaver, si je comprends bien. Parce que si Andrew Weaver, qui est élu ici dans Oak Bay Gordon Head, décide de serrer la main de John Horgan, on a un gouvernement dirigé par John Horgan.
Je pense que le pouvoir des Verts est un peu exagéré à ce moment, seulement parce que j'ai parlé avec beaucoup de gens quand on fait la politique pendant l'élection, et beaucoup de gens qui votaient pour les Verts votaient exprimement contre Christy Clark et les libéraux. On parle avec les gens à la porte et dit « Ah, on veut vraiment arrêter Christy Clark ». Ils disent « Oui, on veut arrêter Christy Clark, on vote Vert ». Alors, Mr. Weaver, son décision, c'est pas... aussi difficile que ça. Il n'a pas aussi ce niveau de pouvoir. Il a le choix. Il peut voter avec les libéraux pour un an, deux ans, trois ans. Et selon moi, ça serait la fin de son carrière. Et peut-être la fin des Verts du niveau provincial. Seulement parce que un si grand pourcentage des voteurs Verts votent pour un parti qui est contre les libéraux. Et ça serait un grand surpris pour eux si le parti Vert vote pour les libéraux constamment et spécialement pour soutenir les libéraux au pouvoir.
Ouais.
C'est pas la première fois dont les Verts ont voté pour les libéraux, ont voté pour deux budgets, des autres pièces de législation, mais ça sera une situation où ils ont l'opportunité de changer le gouvernement, et s'ils choisissent de travailler encore avec Christy Clark, selon moi, ça sera une décision très court terme,
et
il va perdre beaucoup de votes, parce que les personnes ne veulent pas les libéraux au pouvoir. Alors, on dit qu'il est le kingmaker, une façon, mais à la fin de la journée, le choix, c'est à lui s'il veut coopérer avec l'NPD pour changer le système, l'argent dans la politique, pour peut-être avoir un référendum pour changer le système électoral. Et aussi peut-être les autres choses, parce que les NPD et les VELT partagent des valeurs, ils partagent des valeurs sur les questions des soins des enfants, pour l'environnement, on parlait de...
L'environnement.
Exactement, comme le barrage CITC et le Kinder Morgan.
Kinder
et
Morgan.
Des choses comme ça.
Kinder Morgan qui fait pas partie des trois conditions sine qua non, deal breaker.
Ouais, les questions, c'est des plus structurelles de cette façon.
C'est ça.
Mais ça lui donne beaucoup de flexibilité, ce qui est bon, entrer dans les négociations. Je pense que si on a trop de conditions, c'est plus difficile de faire les négociations.
C'est vrai. Est-ce que tu as des amis qui sont militants dans le camp des Verts?
Je connais quelques-uns. J'ai des anciens étudiants.
Est-ce que tu as des discussions animées avec eux?
Ah, des fois. À le moment, je pense que personne a des grandes discussions parce qu'on juste laisse les chefs faire la négociation.
Oui.
Mais en avant l'élection, il y avait beaucoup de conversations.
Oui, durant la campagne.
Oui, moi, j'ai travaillé dans le mouvement l'environnement, comme fait la recherche pour les différents groupes. Aussi des groupes très confrontationnels, pas des groupes qui font des pétitions, moins que ça. Alors, des fois, j'ai besoin d'expliquer à mes amis internationaux pourquoi, comme environnementaliste, je supporte l'NPD et pas les Verts.
Oui.
Moi, j'ai des bonnes raisons.
Que dis-tu
raisons. Dans l'histoire de la Partie verte en Canada, c'est une histoire où la Partie verte a un grand nombre de policies, de positions, des valeurs, un peu tout partout dans le... Dans le système politique. Alors, Mr. Harris, qui était dirigeant des Verts fédérales, avait des policies de taxation régressives pour beaucoup de temps. C'était un parti, un mélange des environnementalistes de la gauche et aussi des chasseurs de la droite. Alors, c'était un peu bizarre de cette façon-là. Aussi, comme...
Si tu habitais dans Saanich Gulf Islands, peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Est-ce que tu voterais pour Elizabeth May
au
fédéral?
Je suis le président de l'organisation du riding de Saanich Gulf Islands.
D'accord.
Et moi, j'ai travaillé sur la campagne contre Elizabeth May.
Ah.
Alors, c'est une autre raison dont je ne supporte pas les Verts, spécialement de façon niveau fédéral. S'il y a un manque de stratégie, il leur dit qu'ils sont un parti progressif, mais à la fin de la journée, ils travaillent toujours contre les NPD dans les conscriptions où ils pensent qu'ils vont gagner.
J'ai un ami qui appelle les Verts d'Elizabeth May « Conservatives on bikes ».
Ouais, je dirais peut-être des fois dans...
Les conservateurs qui font du vélo.
C'est comme c'est comme un environnementaliste un peu yuppie, de façon on fait le recyclage, on a une voiture Prius. Mais aussi, et ça c'est une autre raison dont je ne suis pas un Vert, c'est que des fois, souvent, les Verts manquent une analyse structurelle des causes de l'environnement.
Oui.
On dit il y a trop de consommation, on a besoin d'avoir des petits changements de régulation, mais ne regarde pas la grande image. Mm-hmm. Ce qui est, nous avons une société qui est fabriquée autour d'un système qui endommage l'environnement.
Oui.
Ils ne tentent pas de changer ça. Alors, selon moi, c'est des baby steps, pas trop des grands pas. Alors, on a besoin d'un parti qui vraiment travaille fort pour l'environnement, et selon moi, c'était toujours le NPD.
Mais gens te répondraient que le NPD fédéral ne remet pas en question le système consumériste industriel actuel.
Maintenant, nous cherchons un nouveau chef et nous avons des personnes qui, comme Guy Caron, qui dit on veut introduire le mot en français, Guaranteed Basic Income.
Oui.
Alors, c'est une façon.
Le revenu universel garanti.
Alors, ça, c'est un grand changement.
Oui.
Et aussi, il y a des différents. Peut-être des personnes qui.
Oui, le revenu universel garanti, c'est aussi un point qui fait partie de certains partis de droite. Mais bon, on pourrait faire une discussion.
Ouais, ça sauve beaucoup d'argent, ça. Alors, des fois, c'est une politique un peu bizarre parce que beaucoup de personnes l'aiment, mais selon moi, ça fait plus de sens parce que ça réduit le coût de donner les choses à l'argent.
Mais tu me fais penser qu'on pourra se retrouver.
On devrait parler ça une autre
pour
semaine.
Pour parler de la course à la succession de Thomas Mulcair.
Oui, on devrait parler de ça.
Et de plein d'autres sujets. Malheureusement, le temps nous file entre les doigts. Ça a passé très rapidement. Il va falloir faire un petit peu de montage d'ailleurs. Teal Phelps Bondaroff, encore merci d'être passé au studio de CILS aujourd'hui. Je rappelle à nos auditeurs que tu es docteur en politique internationale, diplômé de 15 Cambridge. Tu es consultant pour le NPD provincial. Tu étais très actif durant la campagne qui vient juste d'avoir lieu. Donc, on va se reparler très bientôt, probablement à propos de l'élection qui est encore indéterminée et d'autres sujets. Merci beaucoup, Thiel.
Merci.
Ici Alison Gadet du Parlement franco-canadien de Noir et de l'Ouest. Vous écoutez CILS FM 107.9 à Victoria.
J'ai cherché l'amour dans les yeux des uns des autres, mais aucun ne fait son lit dans mon nid de chercheuse d'or. Des histoires des entre-deux, j'en ai eu des tas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas, je m'y attendais pas. Je me suis débattue dans les sables mouvants, j'ai érigé des remparts. Ils n'ont pas tenu longtemps, l'amour sans horizon, je l'ai vu 10 fois 100 fois, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas, je m'y attendais pas. À t'aimer comme ça, j'ai suivi ma voie, je suis tombée sur toi. Bleu et contre tout, couru la distance au risque de contre-coup. J'ai laissé les sentiments et dicté les lois, mais à l'heure de vérité, je n'y étais toujours pas. J'ai marché le long des plages, au bord de l'eau claire, pris le vent de la traversée en solitaire. J'ai tourné en rond, j'ai fait 100 fois les 100 pas, mais là où je suis maintenant, je ne m'y attendais pas. Je m'y attendais pas.
Le soleil de la rue de Bagnolet n'est pas un soleil comme les autres. Il se baigne dans le ruisseau, il se coiffe avec un seau. Tout.
Je suis Ryan Price et vous écoutez 107.9 FM.
Info Éducom national et international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Début aujourd'hui de la convention du Parti conservateur du Canada à Toronto. L'événement de deux jours sert à nommer le nouveau chef de la formation. Les membres voteront demain. 13 candidats et candidates apparaîtront sur les bulletins de vote, notamment les anciens ministres Lisa Raitt, Chris Alexander, Stephen Blaney et Michael Chong. Toutefois, l'ancien membre du cabinet Harper, Maxime Bernier, semble être le grand favori pour occuper la succession de l'ancien premier ministre. Lancement aux Nations Unies de l'édition 2017 de la réunion des ministres de la Défense des pays participants aux missions de paix de l'ONU. La rencontre aura lieu à Vancouver les 14 et 15 novembre prochains. Selon le gouvernement canadien, environ 500 délégués en provenance de 70 pays vont participer aux discussions. La réunion examinera les contributions actuelles des membres de l'ONU. Il sera question aussi de veiller à garantir de nouveaux engagements à répondre aux besoins actuels et futurs associés aux opérations de soutien de la paix de l'ONU. Alors que le premier ministre Justin Trudeau était à la rencontre de l'OTAN jeudi, le 43e sommet des dirigeants du G7 à Taormine en Italie s'entame aujourd'hui. La rencontre de deux jours verra les dirigeants se pencher sur les enjeux mondiaux, dont la paix et la sécurité internationale, les changements climatiques et la migration. Alors que le Canada assumera la présidence du G7 en 2018, Ottawa a fait savoir que la présente rencontre donnera l'occasion de mettre en lumière ses contributions, notamment son appui à la classe moyenne forte. De nouveau dans le dossier de l'attentat terroriste de Manchester, selon des informations recueillies par le réseau CNN, le suspect aurait reçu un entraînement d'État islamique. Le type d'entraînement n'a pas été élaboré. Cependant, Chris Swecker, un ancien assistant du FBI, a dit que Salman Abedi pourrait avoir reçu une formation de base sur la façon de passer inaperçu et de faire du repérage dans une foule. Lancement d'un nouveau programme urbain pour les peuples autochtones, soit les Amérindiens, les Métis et les